Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne.
Nicole Gibault.
J'en ai un ras-le-bol de ces gens-là.
À mon sens, c'est de l'intimidation.
Geneviève Peterson.
C'est sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper.
La rencontre.
Non, mais toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche?
Oui. C'est le juge.
La rencontre Gibault-Peterson.
Salut, Nicole.
Bonjour, Geneviève.
Bon, es-tu allée faire ta vie sans masque en fin de semaine?
Oh, pas du tout. Pas moi.
Non?
Pas tout de suite. Oh, non.
Ben, c'est ça que je disais. Il faut respecter les gens dans les deux camps, là, ceux qui veulent
exactement.
Le porter encore. Donc,
non,
toi, tu fais partie.
Immunosupprimé, là,
oui.
Un conjoint. Alors, non, il n'y en est pas question pour le moment. Fait qu'on fait encore bien attention, mais c'est évident que c'est plus agréable là, de voir la situation.
Je disais surtout avec la chaleur. OK, Nicole, vendredi, je te posais la question suivante par rapport au verdict dans le procès Cargiroir. On savait que le jury allait être séquestré. Là, au terme des directives du juge, 11 jurés là, vont délibérer. Ça va débuter. Puis je te posais la question, est-ce que ça va prendre du temps d'après toi? Puis tu me disais, c'est dur à dire. Là, c'est quoi les verdicts possibles? Le juge en a parlé ce matin.
Oui. Et oui, c'est terminé ce matin. Ils sont déjà en délibéré,
c'est-à-dire
séquestrés. À la minute que le juge termine ses directives, c'est la loi qui prévoit qu'ils doivent être séquestrés. Donc, ils vont dîner ensemble probablement et ils vont commencer à délibérer. Maintenant, le temps, jamais j'aurais dit ça auparavant, mais on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Depuis le verdict dans la belle-mère, dans la petite fille de Granby, qui c'était 3 heures après, c'est du jamais vu au Québec, là. En fait, jamais vu. Je pense que j'ai jamais vu ça point partout au Canada. Alors, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais les verdicts possibles ils ont été très, très bien expliqués par le juge ce matin. Il a dit tout simplement ceci. Écoutez, vous allez vous attaquer d'abord à la non-responsabilité criminelle. C'est ça qui est le noyau de la défense, là. Et évidemment, on n'ira pas plus loin s'il est non responsable criminellement. Parce qu'à ce moment-là, ben, il est confié à l'État. Bon, puis il va avoir des évaluations. Jamais il sera remis en liberté. Ça, il lui a expliqué, à moins que ça ne représente plus du tout un danger pour le public. Par contre, s'il est trouvé responsable, si on écarte, parce que la non-responsabilité criminelle, la défense doit prouver ça de façon prépondérante. C'est juste ce qui est plus probable que moins. C'est pas un fardeau aussi difficile que la couronne. Par contre, s'il écarte la non-responsabilité criminelle et qu'il le trouve responsable criminellement, ben là, ils auront à décider. Est-ce qu'il trouve responsable de meurtre 1, c'est-à-dire avec préméditation de propos délibérés, meurtre 2, c'est pas de délibérer, c'est agi sur le coup, sur le moment, on a agi, il aurait agi sur le coup, sur le moment, et homicide involontaire sans nécessairement avoir une intention, c'est-à-dire qu'il savait pas vraiment là, qu'il allait causer la mort dans les circonstances. Puis les gens vont se demander pourquoi. Ben c'est parce que même un trouble mental, alors qu'on a, puis ça c'est extrêmement important que le public comprenne ça, si on a un trouble mental quelconque, on n'est pas obligé d'être déclaré non criminellement responsable pour qu'on atténue la responsabilité criminelle de quelqu'un à meurtre 1, à meurtre 2 et à homicide. Parce qu'à chaque fois qu'on va se poser la question, est-ce que sa maladie mentale peut brouiller son intention spécifique pour causer un meurtre, là, Geneviève, pour être coupable de meurtre, il faut avoir une intention claire, limpide, spécifique. Alors, si il décide qu'il n'est peut-être pas Il est responsable criminellement, mais il était brouillé quand même dans ses idées. Ils pourront aller d'étape par étape à 1, 2 ou homicide involontaire.
Nicole, une décision de la Cour suprême qui me laisse un peu dubitative, mais tu sauras nous l'expliquer là, parce que ce sont des cas très particuliers. La Cour qui a statué que l'intoxication extrême est une défense valide, donc des personnes qui ont commis des actes de violence alors qu'elles étaient sous l'effet de l'alcool, de la drogue ou de médicaments pourront invoquer l'intoxication extrême comme défense en justice. Et là, le ministre de la Justice, David Lametti, qui a réagi parce qu'évidemment, pour des victimes d'entendre ça, parce que c'est quand même un peu décourageant, là, parce qu'on sait que cette défense-là était utilisée beaucoup avant, qu'à un moment donné, on a dit c'est plus acceptable. David Lametti qui a dit, moi, je partage la déception des victimes vis-à-vis de cette décision-là, mais il faut expliquer, la décision a été rendue dans quel contexte, Nicole, là? Ce sont des cas particuliers, ça va pas pouvoir s'appliquer à toutes, là.
Non, mais moi, ça me dérange.
Ben, c'est sûr que oui, c'est un précédent.
Ça dérange énormément, puis je comprends très, très bien le ministre de la Justice, je comprends les victimes, mais je comprends aussi qu'il faut pas partir en peur, puis qu'à chaque fois que quelqu'un s'en va dans un bar, puis qu'il prend de l'alcool ou de la drogue, on va pouvoir s'en sortir pour une infraction de n'importe quoi. Non. C'est vraiment lorsque on a une démonstration par un expert. Et là, je vois les commentaires. Bon, encore des experts. Et oui, c'est ça le problème. Encore des experts, mais il faudrait avoir des experts pour prouver que cette intoxication volontaire, puis c'est là où on a de la misère, là, parce que c'est la personne a décidé de s'intoxiquer, a décidé d'avaler des quelque chose pour...
Puis c'est ça qui l'a plongé dans cette intoxication-là extrême.
Alors, cette personne-là pourrait bénéficier de cette défense-là. Pourquoi? Si un expert décidait de dire, écoutez, moi, là, dans ces conditions-là, c'est une personne qui a perdu le... En fait, c'est la même chose. Ça ressemble à la non-responsabilité criminelle. Là. C'est dans un état d'automatisme solide. Là. Il sait même plus s'il s'en vient, s'il s'en... Il y a rien. Zéro, zéro, zéro. Alors, à ce moment-là, la Cour suprême s'inquiète en disant, ben là, on peut pas accepter que quelqu'un qui a aucune espèce de raisonnement ou de responsabilité, que c'est même pas...
Mais en même temps, c'est ça, parce que si la question, c'est est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait, est-ce que la drogue a pu pousser à le faire, c'est une chose, là, mais... Tu sais, ce qui a été la Cour suprême, l'affaire sur laquelle elle s'est penchée, c'est quand même assez hallucinant, là, sans faire de mauvais jeu de mots, parce que l'homme en question avait consommé des drogues hallucinogènes et de l'alcool. Oui. Là. Mais Matthew W. Brown, il a attaqué une jeune femme. Il lui a causé des lésions permanentes. Donc, je me mets à la place de cette victime-là qui se fait dire, ben écoutez, monsieur Brown était tellement intoxiqué qu'il savait pas ce qu'il faisait. OK, mais il l'a quand même fait, tu sais.
Oui, mais puis dans l'autre cas, c'est encore pire. Il a tué son père. Alors, dans un cas, il y a eu de la violence extrême. Dans l'autre cas, il y a eu un meurtre.
Fait que c'est quoi? C'est comme une psychose toxique? C'est ce qu'on invoque?
Complètement. La responsabilité, on n'est même pas capable de le voir à travers, même pas d'une brume, de rien. C'est complètement... Mais c'est extrêmement rare.
Ben oui.
Mais la Cour suprême a même dit, écoutez... On va aller là parce qu'on n'a pas le choix, parce que la charte, c'est ça qu'on peut pas, là. On faut qu'on invalide.
Puis comment tu prouves ça, une intoxication extrême aussi après coup?
C'est ça, là. C'est pour ça que ça va prendre des experts solides. Mais ici, ça s'est fait dans ces deux dossiers-là avec experts. Mais par contre, même la Cour suprême dit, écoutez, on dit au gouvernement, là, il est temps, là, que vous légiférez. Et c'est pour ça que le ministre, et pas juste pour ça, à cause de la décision, évidemment, mais le ministre a pris de la justice canadienne, a bien pris note, de dire, écoutez, on va essayer d'agir. Le problème, là, c'est qu'on va essayer d'agir dans 4 ans, ou on va essayer d'agir dans 4 jours, ou dans 4 mois. C'est parce que je sais que ça n'arrivera pas tous les jours, ce genre d'intoxication, mais il reste qu'il y a des victimes qui peuvent mourir ou être physiquement blessées à vie à cause d'une personne qui volontairement fait qu'il s'est intoxiqué. Il y a eu des propositions de dire, écoutez, lorsque vous vous intoxiquez volontairement, ben ça devient une infraction. Juste s'intoxiquer volontairement, ça deviendrait une... Bon, en tout cas, ils vont essayer de regarder ça, et les juristes vont travailler là-dedans, quelque chose de grave, parce qu'il faut protéger les victimes là-dedans. On en convient, le ministre en convient, la Cour suprême en convient, mais par contre, quelqu'un qui n'est pas là du tout, du tout, du tout, on ne peut pas y attribuer une intention criminelle. Il n'a pas d'intention, il est d'un vape, là, si on me permet l'expression, mais à cause de sa consommation. Alors, ça revient, moi, ça me dérange beaucoup, beaucoup. Ça existait avant, puis on a passé à travers ceci, il y avait eu un article au Code criminel, là, on l'invalide, et on retourne, j'aime pas ça, ce genre de décision, mais elle est là.
Nicole, on parle souvent, toi et moi, du laxisme dont semble faire preuve Service correctionnel Canada. Là, on n'est pas là-dedans dans ce cas-ci. Là, on est dans une histoire de trafiquant d'armes, un trafiquant d'armes montréalais qui vendait des AK-47. Qui est en prison depuis un petit bout, et si je me fie à ce que on peut lire ça et là, il n'aurait toujours rien appris, le monsieur, si bien qu'on l'a déclaré trop dangereux pour obtenir sa libération conditionnelle totale, et on devait se dire aussi qu'il allait possiblement continuer son mode de vie criminel en dehors des murs.
Alors, bravo, c'est un cas clair, net.
Pour une fois.
Oui, c'est ça. Souvent, c'est peut-être un peu plus difficile que ça, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a tendance à être aussi clair que ça, dire non, j'arrêterai pas. Puis en plus,
puis faire de la merde en prison là aussi.
Il y a plein d'événements qu'il s'est fait retrouver avec des armes qu'il a fait lui-même ou quelque chose de genre là. Disons là que c'est un récalcitrant là, de A à Z depuis le début de sa sentence.
Écoute, il y a eu de la prison supplémentaire parce qu'il a fait des menaces de mort.
Il veut rien savoir, rien savoir, puis il justifie, puis c'est son choix, puis laissez-moi tranquille, puis tout ça. Fait qu'il y a eu, je pense que c'est un cas assez, je vais oser dire, assez évident qu'on peut pas remettre en liberté ce genre de personne-là pour la sécurité du public. Comment on aurait défendu cette décision-là, encore une fois, ça aurait été impossible avec ce qu'on lit, là, que c'est vraiment le plus haut de risque de criminalité. Bon, enfin, souvent, c'est comme je dis, ça peut ne pas être aussi clair que ça, mais j'ose espérer qu'on fait attention, parce que là, on parle d'armes à feu en plus, puis on parle de quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention de se réhabiliter. Alors, je pense qu'il va être obligé de faire le temps complet, et malheureusement, je pense qu'à la fin de son temps, il n'aura pas encore compris. Puis c'est 10 ans, là, c'est pas énorme, là. C'est énorme, oui, une peine de 10 ans, mais est-ce qu'il va avoir compris? On l'espère. Mais ils ne pourront pas le garder après.
Oui, c'est permis d'en douter, bien évidemment, Nicole, avec ce qu'on peut lire. Petit mot sur David Milgaard, qui est l'une des plus célèbres victimes d'erreurs judiciaires canadiennes, qui est décédée.
Oui, longtemps, les gens ont pas cru nécessairement. On dit, ben oui, ils disent tout ça, qu'ils sont pas coupables, etc. Mais dans ce cas de David Milgaard, que j'avais suivi à la lettre, au jour, et il faut saluer le courage de sa mère, qui a tout fait pour... Il a passé 23 ans en détention.
Accusé de viol, de meurtre.
Meurtre. Et clairement, c'était pas lui. Puis là, quand on a eu la possibilité de faire des analyses d'ADN... parce que de viol, on sait qu'on a fait les analyses de sperme, on s'est clairement rendu compte que c'était pas lui. C'est un autre individu, et un dénommé Fisher, je m'en souviens encore comme c'était hier.
Oui.
Et cette personne-là, c'est cette personne-là, M. Fisher, qui a commis les actes. Il a passé 23 ans,
terrible.
Il a eu 10 millions, mais 10 millions, 23
ça
ans.
Ça t'ordonne pas tes années, c'est sûr.
Ben, il est mort à l'âge de 69 ans, je suis certaine. Mais il a continué à défendre pour les erreurs judiciaires. Bravo. Et je pense que tout le monde, même le ministre de la Justice, doit saluer son courage.
Très bien. Merci, Nicole. À demain.
À demain. Au revoir.